Le premier sujet, eh bien, on va parler des journées du patrimoine avec un lieu bien précis, hein, puisque nous allons parler du 9-9 bis de Oignies. Alors, pour présenter ce lieu chargé d'histoire, eh bien, j'ai invité Olivier Galland, qui est directeur donc du 9-9 bis. Bonjour, monsieur Galland.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir à Radio Campus. Je crois qu'on ne s'est jamais vu ici à la radio, mais je suis déjà venu au 9-9 bis, qui est un lieu assez, on va dire, unique dans la mesure où il est hyper bien préservé. Il fait partie maintenant de ce qu'on appelle le patrimoine UNESCO, c'est ça ?
Tout à fait, puisque le bassin minier a été classé, 250 éléments ont été classés au patrimoine mondial, dont le 9-9 bis, qui est l'un des grands sites de la mémoire minière, classement qui est intervenu le 30 juin 2012.
Ce qui veut dire que ces 250 éléments sont préservés à vie ?
Bien sûr, ils sont préservés, ils sont conservés et ils sont protégés. Donc ces éléments, ce sont des cités minières, ce sont des puits, et ce sont des éléments comme le 9-9 bis. Voilà, c'est tout ce qui constitue l'histoire économique de ce territoire. Et cette histoire économique a composé un territoire très, très particulier avec ses usines, avec ses cités, avec sa géographie. Et voilà, c'est ça qui a été préservé par l'UNESCO.
Alors quand on entend 9-9 bis, il y a des numéros. Ce sont les numéros des puits de mine, des fosses.
Exactement. Vous avez en fait d'autres 9-9 bis. D'ailleurs, le Louvre-Lens, par exemple, est installé sur aussi le site du 9-9 bis. On s'est interrogé, puisque le Louvre-Lens a été inauguré au mois de décembre 2012. Nous avons vraiment démarré avec l'ouverture du Métaphone en juin 2013. On s'est vraiment questionné de savoir si on devait garder quand même l'intitulé du 9-9 bis au regard de l'arrivée du Louvre-Lens. Et en fait, dans un échange avec nos collègues, on a pu mesurer que l'intitulé 9-9 bis n'était absolument pas repris par le Louvre-Lens. Et donc, on s'est dit, on le garde parce que c'est quand même l'emblème. Et c'est comme cela que ça s'appelait jusqu'à sa fermeture, puisque c'est le dernier puits de mine qui a fermé dans le Nord-Pas-de-Calais en décembre 1990.
Voilà, donc on peut dire qu'il y a en gros des sociétés minières. Le 9-9 bis, c'est le 9-9 bis de Oignies.
Oui, c'est le 9-9 bis, exactement. Il y avait, c'était d'abord des familles hein, qui dirigeaient ces grands ensembles. Et puis après, il y a eu la nationalisation en 1945. Mais c'est le 9-9 bis de Oignies.
Voilà. Donc beaucoup de gens ont vécu la période industrielle du charbon. Certains, peut-être, habitent encore dans le lieu, enfin proche.
Il y a encore, il y a beaucoup de gens âgés, beaucoup de veuves, d'anciens mineurs qui vivent dans la cité, hein, puisque vous avez à la fois les bâtiments, vous avez le terri hein, qui était les éléments qui étaient sortis en fait de terre, et puis vous avez la cité qui s'articule autour de l'usine. C'est tout à fait symptomatique, je dirais, hein, sur l'ensemble des sites que l'on peut trouver dans le bassin ou ailleurs, hein, un peu partout en France. Hein, vous avez voilà, les compagnies minières aimaient avoir leur main-d'œuvre à proximité. Et donc, voilà, ils ont organisé des cités autour. Et aujourd'hui, vous avez bien sûr des gens issus de personnes qui y ont travaillé. Il y a encore beaucoup de petits-enfants et voilà, cette culture perdure, même si elle s'est arrêtée il y a maintenant plus de 20 ans.
On pourra bien sûr un jour aborder aussi la mainmise hein, des mines sur la vie globale, hein, la vie privée aussi des personnes qui travaillaient. Là aujourd'hui, on va parler de patrimoine, hein, donc du patrimoine, on va dire foncier peut-être, qui est visitable.
Oui, donc le site est composé à la fois d'espaces où vous avez des machines qui sont donc, ces bâtiments sont classés, avec des machines dites tournantes. Elles ont été classées tournantes parce qu'elles fonctionnent. Et d'ailleurs, d'ici quelques mois, au mois de décembre, dans le cadre d'un temps fort, nous aurons l'occasion de faire refaire fonctionner des machines, en particulier un grand treuil et une molette. Ces éléments permettaient de faire descendre les cages en sous-sol. Vous avez d'autres éléments comme les douches des mineurs. Les mineurs arrivaient, ils se changeaient, ils mettaient leurs affaires, ils descendaient, ils revenaient, ils se douchaient. Donc vous avez aussi l'espace des douches qui a été réhabilité. Nous avons inauguré ces espaces, réinaugurés puisqu'ils sont ouverts en 1930 pour évidemment d'autres vocations que celle d'aller se doucher.
Quand on parle de la salle des pendus, ça fait un peu peur. C'est quoi ?
Ben, alors, c'est vrai que la salle des pendus, les anciens mineurs n'aiment pas trop ce terme parce qu'il semblerait que ce terme soit issu de journalistes parisiens qui, en découvrant les espaces, ont vu les habits donc suspendus, puisque pour gagner du temps et pour faire sécher les habits, tout était remonté. C'est pour ça que on a appelé ça ensuite salle des pendus, mais en fait, c'est la salle des douches. Et puis dans les douches qui se situaient de part et d'autre, douches collectives pour les mineurs, ça ce sont les espaces dits les lavabos. Voilà, donc ça c'est le terme vraiment, je dirais, technique, scientifique. Et puis après, il y a eu des éléments détournés, on a appelé ça la salle des pendus. Et vous avez ensuite d'autres lieux qui pourront être visités, l'ensemble des espaces extérieurs, le terri, et puis... comme le 9-9 bis a fait l'objet d'une reconversion totale, une reconversion culturelle, vous avez également une salle de spectacle, le Métaphone, où se déroulera d'ailleurs un spectacle lors des Journées européennes du patrimoine, mais je crois qu'on va en parler d'ici quelques instants.
Bien sûr. Alors, moi j'étais allé l'année dernière au 9-9 bis et je suis entré dans la salle des douches, hein, puisqu'on va l'appeler comme ça. Donc c'est assez impressionnant de voir les vêtements qui pendent et puis une esthétique particulière. Hein. C'est un lieu qui n'est pas forcément austère, qui est fonctionnel, on va dire. Les couleurs sont d'époque ?
Les couleurs sont les mêmes, mais elles ne sont pas d'époque. Hein. La réhabilitation a été opérée entre donc 2014 et 2016. Donc, il a fallu remettre aux normes, il a fallu remettre de l'électricité, etc. Puisque nous avons, nous, des bureaux maintenant dans ces espaces-là. Nous avons gardé évidemment des lavabos et nous avons gardé les espaces tels qu'ils existaient en partie. Et puis, vous avez d'autres espaces comme un plateau de danse, un auditorium, un instrumentarium et des studios de répétition. C'est des volumes qui sont immenses. Et voilà, là, ça nous... cette nouvelle vocation et l'idée de faire perdurer l'histoire, c'est aussi de l'inscrire dans la modernité. Donc voilà, et puis d'ailleurs, il y a d'autres espaces encore qui sont les anciennes chaufferies, qui permettaient de chauffer les douches dans ces chaufferies. En fait, aujourd'hui, ce sont des espaces de réunion et de location.
Alors Olivier Galland, en tant que directeur de cet ensemble hein, complexe, hein, vous devez être heureux de voir la fréquentation qui s'est étoffée depuis quelques années.
Oui, c'est une histoire qui démarre, je dirais, qui redémarre, hein, parce que la fréquentation augmente avec aussi le développement de l'activité. C'est un projet vraiment dans un développement. Moi, je suis arrivé donc en 2012. C'était encore une friche, en fait. Mm-hmm. Et en effet, ma mission était de penser un projet de reconversion de ces espaces-là et d'envisager à la fois de recrutement d'équipes et de penser un projet culturel, artistique et scientifique dans sa dimension patrimoniale. Et voilà, les choses avancent progressivement. J'ai indiqué que On a eu l'occasion d'inaugurer le Métaphore en 2013. On a inauguré les douches, les chaufferies en septembre 2016. Donc, c'était il y a 2 ans. On est en train aujourd'hui de travailler la reconversion des machines. Et notre souhait, c'est aujourd'hui d'organiser un parcours individuel, puisqu'aujourd'hui, nous avons des visites, à peu près 80 visites tout au long de l'année pour faire découvrir ces éléments-là. Donc, oui, il y a une fréquentation de plus en plus forte. C'est un projet qui est de plus en plus identifié en région. Voilà, c'est super, mais c'est aussi de gros moyens accordés par l'agglomération, accordés par le département, avec des aides aussi de la région et de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui est composée de 27 collaborateurs. Donc, il est normal que l'on travaille et qu'on développe des projets.
Alors, il y a des lieux dans cet ex-bassin minier, alors je ne sais pas si on peut dire du Pas-de-Calais, par exemple, non, comme on dit L'Ansois, oui, non, pas L'Ansois.
Non, du Pas-de-Calais, oui, Pas-de-Calais, hein. Nord-Pas-de-Calais en tous les cas. Oui.
Donc, il y a des lieux qui sont, on va dire, maintenant dans les guides touristiques. Est-ce que vous en faites partie ?
Oui, nous sommes mentionnés dans plusieurs guides touristiques. Nous étions même dans un très bien mis en valeur dans un Géo en Allemagne il y a quelques mois. Cependant, il y a encore tout à faire. Hein. Il y a encore de la signalétique à développer. Il y a encore un vrai boulot à mener pour être encore mieux identifié, plus connu. Et puis, il y a aussi un vrai travail en termes d'accueil des publics, parce qu'il ne s'agit pas de penser le développement culturel et touristique de ce site si derrière on n'est pas en capacité d'accueillir et de faire de la médiation auprès des publics qui s'y rendent. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour les mois qui viennent, avec des rapprochements forts avec l'office de tourisme de Lens-Liévin, par exemple.
Mmh. En termes d'équipe, ça représente combien de personnes ?
27. Alors, l'équipe ne travaille pas que sur la dimension patrimoniale. Vous avez deux dimensions très importantes qui est la valorisation du patrimoine minier et puis tout ce qui relève de la création et diffusion musicale, avec un élément très fort et une articulation très forte entre les deux. C'est tout ce qui relève de l'éducation et de la médiation, puisque nous avons à la fois des musiciens intervenants qui interviennent dans les écoles. Nous avons une personne en charge de l'action culturelle qui est arrivée il y a quelques semaines, un contrat local d'éducation artistique avec des artistes qui sont là en résidence pendant 4 mois, enfin 4 artistes en résidence pendant 4 mois chaque année. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis des collaborateurs qui travaillent aussi sur la dimension communication, technique, administration. Voilà, c'est tout ça qui permet de développer des activités, je dirais, quasi quotidiennes sur ce site.
Alors, la semaine prochaine, nous aurons l'occasion dans cette émission d'accueillir quelqu'un qui s'occupe de l'accompagnement, on va dire, des projets musicaux qui sont dans ce lieu avec des artistes. On écoutera la semaine prochaine aussi un CD qui était, on va dire, produit par le 99 bis. Donc, c'est un lieu, on va dire, qui est dynamique d'une manière générale, avec des gens très spécialisés. Je pense qu'en musique, vous êtes vraiment au top, quoi, sur la programmation aussi du Métaphone.
On essaye de l'être au top.
C'est reconnu maintenant. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de doute quant à l'intérêt culturel du lieu.
Bah, tant mieux, si vous le dites. En tous les cas, on y travaille. C'est pareil, c'est vrai qu'on a de plus en plus de monde qui vient au concert. Moi aussi, on a de plus en plus de groupes. Par exemple, on a ouvert depuis un an et demi les studios. On a 76 groupes qui sont venus travailler, répéter. Voilà, on a des artistes aussi en résidence. On a 12 groupes qui sont accompagnés, des artistes professionnels. Voilà, ça fait aussi partie de notre mission dans la dimension, je dirais, la musicale, hein, création. Mais la singularité du projet, c'est vraiment d'envisager les articulations entre le patrimoine et la musique. Et par exemple, la Journée européenne du patrimoine y contribue. C'est-à-dire qu'on crée vraiment ces liens entre le patrimoine et le spectacle vivant. C'est comment, quelque part, le patrimoine participe à valoriser les artistes et inversement, comment les artistes peuvent valoriser des éléments de patrimoine. Donc voilà. Et on pense aussi la médiation de façon un peu différenciée, pas uniquement avec un conférencier, mais de façon détournée avec des compagnies, etc., ou de la création de parcours numériques.
Donc on va revenir à ces journées du patrimoine, enfin peut-être d'un focus particulier sur des horaires ou un jour bien précis. Au
Si vous voulez.
9-9 bis.
Oui, tout à fait.
Allez-y.
On va démarrer des samedis matin jusqu'à dimanche soir. Donc le programme est chargé et aucun souci pour vous parler un petit peu de ce qui va s'y dérouler.
Alors allons-y.
Ah, d'accord. Alors les Journées européennes du patrimoine cette année au niveau national, donc c'est les Journées du patrimoine, c'est la 35e année organisée par le ministère de la Culture. Hein, le ministère a toujours un thème, donc c'est l'art du partage cette année. Donc on a essayé de s'y caler. C'est toujours un petit peu difficile parce que le ministère sort toujours son thème au mois de mars, alors que mars-avril, alors que nous, on essaie de travailler quand même nos contenus beaucoup plus tôt. D'autant que cette année, nous avons décidé de monter de créer une grande et très belle exposition qui est en train d'être installée et qui porte sur l'archéologie de la mine. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'archéologie de la mine?
Alors, c'est quoi l'archéologie?
Voilà. je fais des questions-réponses,
Ouais, pas de souci.
ça. Eh bien, l'archéologie de la mine, c'est le fait de valoriser des éléments que vous trouvez issus de la trace des enfin ce sont des en fait des traces issues de l'extraction du minerai de charbon ces 100 dernières années. C'est-à-dire que en fait quand vous déplacez voilà sur ce territoire-là, eh bien vous avez des quantités de traces d'éléments qui prouvent bien qu'il y a eu de l'extraction de charbon, mais au-delà des éléments qui ont été rajoutés, par exemple tout ce qui est traitement, coquerie, traitement de charbon, etc., quoi. Donc, cette idée de travailler sur la trace et de travailler sur l'archéologie vient d'une rencontre que nous avons faite il y a 4 ans maintenant avec Didier Vivien, qui est à la fois universitaire à Lille 3 et qui est photographe, qui lui, depuis 30 ans, en fait, fait des photos de ces traces. C'est-à-dire, il voit des éléments. Vous savez, parfois vous dites, mais c'est quoi ça? Vous voyez une espèce de bloc en béton au sol, et comme ça. Et en fait, eh bien, ce bloc en béton, c'est un ancien puits. Puisqu'en fait, il y avait, je sais plus, plusieurs centaines d'usines d'extraction. Aujourd'hui, il en reste 4. Hein. Donc, vous voyez, mais donc les puits ont bien existé, l'extraction a été faite, et il reste juste des petites traces aujourd'hui, des éléments qui prouvent qu'il y a eu cette industrie-là. Et donc lui, il a capté, il a photographié à la fois avant la fermeture et après la fermeture. Et en même temps, il a aussi photographié la reconversion progressive de ce bassin. Et il est venu nous voir en disant, voilà, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Il avait déjà sorti un livre. Il nous a proposé de nous associer, Culture Commune également. Enfin, plusieurs partenaires l'ont été pour sortir un livre très volumineux et très beau un peu de ces traces et de cette histoire. Et ce livre est sorti il y a un an. Et puis, en échangeant, en discutant, il a dit, mais moi, j'aimerais bien travailler là-dessus. Et puis aussi, c'est l'histoire d'une rencontre avec une autre personne qui s'appelle Jean-Marie Minot et qui, lui, est le président de l'association Acousto-Séki, qui est l'association des anciens mineurs, puisque nous avons des anciens mineurs qui viennent tous les lundis chez nous. Et si aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont aussi bien préservés, avec des machines qui sont conservées dans cet état, c'est grâce à eux.
Merci Olivier Galland. Donc je rappelle que vous êtes directeur du 9 bis et j'espère que beaucoup de personnes seront présents pour ces Journées du patrimoine 2018. Très bonne journée.
Merci à vous.